Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum l'Épargne, notre partenaire. Quorum l'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget, et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant, et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum l'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum l'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN. Et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode. Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Eh ben, j'ai appuyé sur play, donc on est en train d'enregistrer. Salut Alan, comment vas-tu ?
Eh ben, ça va plutôt bien et toi ?
Eh ben, franchement, ouais, j'ai la banane aujourd'hui. Écoute, j'ai enregistré avec plusieurs skippers et à chaque fois, c'est des épisodes qui m'ont marqué, tu vois, desquels je me suis vraiment senti grandi de ces petites heures de conversation. Tu vois, ça a été Clarisse Kremer, Thomas Coville, Yves Leblévesque, Aurélien Ducrot aussi. Et à chaque fois, c'est des moments fantastiques. Donc, ce matin, j'avais vraiment la banane, tu vois, en sachant que j'allais pouvoir échanger avec toi, et notamment parce que t'as vraiment un parcours
que j'ai lu et qui m'a donné beaucoup d'étoiles un peu dans les yeux et de frissons un peu dans le ventre. Donc franchement, je suis trop content d'être là. Merci infiniment d'avoir répondu présent. Merci beaucoup à Aurélia d'avoir pu organiser tout ça. Donc voilà. Moi je suis j'ai une forme d'enfer, tu vois.
Ah, ça va être une bonne journée du coup. C'est bon ça.
Ouais, exactement. Mais souvent les invités sous-estiment un peu la force que ça me donne moi de ressortir, tu vois, d'une conversation comme ça. Bon, je sais pas encore ce qu'on va se dire, ça va être la surprise. J'ai un peu préparé bien évidemment, mais après je sais que je dévore la vie à pleines dents, donc c'est cool. C'est très 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 cool. Et je te le disais un petit peu en préparation pour lancer les interviews, j'aime bien commencer par l'enfance. Et il y a une question qui est traditionnelle, qui est de savoir un peu sur tes premiers souvenirs de sport. Alors ça peut être des premiers souvenirs de voile, ça peut être des premiers souvenirs d'autres sports. J'ai cru comprendre que tu avais été mis très 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 jeune sur un bateau par ton papa. Quel est toi ton premier souvenir de voile?
Alors moi, mon premier souvenir de voile, bon, j'ai eu la chance de grandir sur un bateau, donc forcément c'était un peu naturel d'être bercé dans ce milieu. Mais ouais. Moi, mon premier souvenir de voile, c'était lors de l'America's Cup où Alinghi ramène la coupe en fait en Europe. Je devais avoir 8 ou 9 ans. Et c'était un souvenir assez incroyable parce que pour moi, le sport, c'était... quand on est gamin, on a ces belles images en tête, mais avec du recul, on se rend compte que c'était plus que des images, c'était faire vivre un pays en fait pendant une certaine durée. Et l'America's Cup, c'est quand même la compétition la plus ancienne, hein. C'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Et que la Suisse aille chercher cette victoire, un pays qui n'a pas de mer, hein, qui n'a comme terrain de jeu un lac, d'aller chercher cette victoire-là. À l'époque, c'était un peu comme Rasta Rocket, quoi. Je veux dire, c'était impossible. Et on l'a fait. Et c'était pour moi ça restera mon premier souvenir et un des plus beaux souvenirs de sport que j'ai vécu jusqu'à là.
Ouais, je me rends pas compte l'engouement qu'il y avait pu avoir en Suisse à ce moment-là. C'était comme le football ou comme d'autres sports ou comme le ski, je sais pas, comme le sport national. C'est vrai qu'en France aussi c'est assez suivi, tu vois. Alors moi, l'équipe de France a pas eu la chance de ramener la Cup depuis un petit moment. D'ailleurs, faudrait que je regarde s'ils l'ont déjà gagné, mais je crois pas. Ouais,
je crois pas, non. Ça c'est non.
Mais je me rends pas compte de l'engouement du coup que ça peut avoir, tu vois, sur à ce moment-là. Tu t'en souviens? Il y a des images un peu qui t'ont marqué de l'IS, des gens ou en famille. Comment tu l'as vécu?
Alors moi à ce moment-là j'étais dans les Antilles. J'étais en Martinique exactement pendant cette première victoire et clairement j'ai pas vu en Suisse comment ça se passait à ce moment-là précisément, mais un peu après. Et en fait, Alinghi a fait vivre la Suisse pendant des années et des années, quoi. C'est-à-dire que tout le monde chez soi avait une casquette, un t-shirt ou un sac marqué Alinghi, a suivi cette aventure de l'America's Cup. Ça a été le Graal sportif pendant des années chez nous, quoi. C'était, on a ramené la Coupe de l'América en Suisse, quoi. Et le bateau avait été exposé au bord du lac. Il y avait eu une remise, pas des prix, mais on va dire qu'il y avait eu cette coupe avec l'ensemble de l'équipage qui était là, à la Société Nautique de Genève. Enfin, ça avait été vraiment quelque chose de... C'était à nous, quoi. Et c'était vraiment, enfin, je vois l'image encore, il y avait un dessin avec la Coupe de l'America's Cup et derrière, il y avait les montagnes suisses avec le drapeau suisse, quoi. C'était, on l'a, quoi. Et c'était une fierté, en fait, nationale. Ça passait au-dessus du sport. C'était, la Suisse est allée chercher cette victoire, quoi.
Ouais, mais c'est vrai que ça peut paraître complètement improbable, effectivement, pour un pays qui n'a qu'un lac comme terrain de jeu entre guillemets, tu vois, mais un bon terrain de jeu. Et d'ailleurs, dis-moi si je me trompe, mais j'avais noté quelque part que très vite, toi, ton papa avait acheté un bateau et que tu avais dès ton plus jeune âge vécu sur ce bateau-là, sur le lac Léman, une petite partie de ta vie, en tout cas sur ta jeunesse que.
Ouais, en fait nous on est une famille en tout de comment dire, on est 4 enfants. C'est une famille un peu reconstituée, mais on est 4 enfants et en fait mon père à l'époque quand en gros à ma naissance, il s'est dit ce serait quand même cool de pouvoir voyager en famille à un moment donné, quoi. Et sauf qu'en Suisse, en fait, acheter ou louer une maison ou un appartement, c'est très compliqué. Du coup, il s'est dit bon, on va acheter un bateau, on va vivre dessus, et ça va nous permettre en fait d'économiser un maximum d'argent et du coup de mettre de côté pour pouvoir partir ensuite voyager en famille. Donc, il a acheté un bateau à moteur à l'époque, un petit bateau, hein, il faisait 10 mètres. Okay. On vivait tous là-dedans, là, donc c'était assez, c'était camping, mais c'était bien chouette. Et quelques années plus tard, ça devait être en 97 ou 98, on a acheté un voilier qui était juste à côté de ce bateau à moteur. Et c'est avec celui-ci, on est parti voyager autour du monde en 2001 et on est rentré en 2012. Donc, on est parti très longtemps voyager. Et après, voilà, c'était un objectif de vie où on travaillait de pays en pays, d'escale en escale pour essayer de maintenir la caisse de bord. Et puis, vivre autre chose, quoi, juste voir ce qui se passait dans le monde. Mon père avait dans la tête cet état d'esprit de se dire bon, si j'attends la retraite, déjà je vais pas avoir une retraite très intéressante, donc l'idée c'était de se dire bon, je pars tant que j'ai la santé en famille et on verra après, je bosserai jusqu'à la fin de mes jours, mais j'ai pas envie d'attendre le jour de la retraite où on m'annonce que pour une raison ou pour une autre j'ai une maladie où je puisse pas y aller, quoi. Ouais. C'est, je suis jeune, j'ai une famille qui a envie d'y aller, allez go, on y va, quoi.
Ah, mais c'est un super beau projet, franchement, et ça montre que c'est possible, quoi, parce que vous étiez 6 du coup, si je comprends bien.
Ouais, alors on est parti à 5, parce que la famille reconstituée fait que ma grande sœur, elle avait déjà plus de 20 ans quand on est parti. Et puis au fur et à mesure des années, ils sont tous partis, parce qu'ils étaient, je suis le plus petit en fait dans la famille.
Ouais.
Okay. Donc je suis le dernier à être resté jusqu'au bout.
T'aimes bien être le Benjamin.
C'est ça.
Mais je me rends pas compte, tu vois, de ce que ça implique au quotidien. Tu fais l'école à la maison, tu vis les uns sur les autres tout le temps. Tu combien de fois tu vas à terre réellement, quel type de job pouvait faire ton père, tu vois. C'est, je me rends pas compte de tout ça. Enfin, je sais pas, t'as quelques infos un peu concrètes, tu vois, là ça me donne des étoiles dans les yeux quand tu le racontes, et puis je le vois avec ton grand sourire, je me dis mais ça devait être génial.
C'est incroyable, c'est des moments où on vivait forcément un peu les uns sur les autres, hein. C'était le bateau était plus un dortoir qu'une maison, quoi, parce que c'est pas très grand, hein. Le bateau, il faisait 12 mètres de long, donc c'était pas non plus c'était pas un yacht. Et en fait, on a commencé très vite à bosser toute la famille. Ça, c'est la première des choses, parce qu'on se rendait compte que plus on était nombreux, plus on ramenait de sous, et plus on pouvait voyager longtemps, quoi.
Okay.
Donc on a fait tout type de travail, hein. On a commencé par avoir un stand sur un marché dans les îles Canaries, on a construit un chantier naval au Venezuela, on a géré une boîte de bateaux de location en Martinique, on a construit un palais à Grenade dans le sud de la Caraïbe, enfin bref, on a fait 12 000 métiers. Et moi, du coup, j'ai jamais été scolarisé, que ça soit avant le voyage et pendant le voyage. En fait, c'était un peu l'école à la bonne franquette, mais enfin, c'était quand même assez simple. Et du coup, on a vécu comme ça pendant des années et des années. Et finalement, quand je vois mes frères et sœurs aujourd'hui, ça nous a tous réussi, quoi. En tout cas, on n'est pas en retard sur les autres, quoi.
Ah, mais c'est clair, tu vois, pour moi c'est la plus belle école de la vie, tu vois, franchement, en vrai, tu découvres le monde, donc déjà tu t'ouvres à d'autres cultures, tu t'ouvres à d'autres personnalités, tu au quotidien t'as des challenges à résoudre qui peuvent être effectivement techniques, trouver un nouveau boulot, et puis aussi émotionnellement, tu vois, quand tu vis un peu sur un bateau de 12 mètres de long, ça t'apprend à gérer les conflits, à vivre en groupe, tu vois, et c'est puis tu vis déconnecté aussi de un peu de tous les problèmes que tu peux voir, tu vois, je pense que les médias, tout ça, c'est tu te coupes un peu de tout ça, donc c'est quand même, pour moi, c'est la plus belle école de la vie, tu vois, et j'avais interviewé les frères là-devant qui font, eux, de l'escalade de glace, et pareil, eux, ils ont grandi dans une yourte, et tu vois, pas école à la maison, quoi, l'école de la nature, l'école de la vie, et ça leur a super bien réussi. Aujourd'hui, ils sont précoces, tu vois, ils ont 25 ans, mais ils gèrent toute leur carrière de A à Z. Enfin, ils sont. Pour moi, j'ai pas l'impression que, tu vois, ça soit un désavantage plutôt qu'un avantage. Mais je le vois vraiment comme.
Ouais, puis c'est un ensemble. C'est qu'aujourd'hui, on essaie de sensibiliser un maximum les gens à se rendre compte de la planète, etc. De faire attention à ci, à ça. Ouais. Et alors, c'est sûr que c'est hyper important, et je soutiens à fond, parce qu'il faut vraiment agir. Mais nous, en fait, notre vie sur le bateau, on était, on voyageait avec notre maison sur le dos, par exemple, pour donner un exemple type, mais on avait 1000 litres, c'est notre réservoir d'eau dans le bateau, c'était 1000 litres, et avec 1000 litres, fallait tenir 2 mois, quoi. Et quand on est 5 dans le bateau, les douches, la vaisselle, les lessives, etc., on apprend à faire avec, avec ce qu'on a, à récupérer l'eau de pluie. C'est une vie qui est hyper naturelle, on vit avec les éléments, et du coup, je trouve qu'on est sensibilisé dès le plus jeune âge à respecter la nature et à faire attention à tout, parce qu'on a un budget à respecter, même quand on est gamin. On a quantité d'eau, quantité de nourriture, parce que quand on part en mer, forcément, on a tant de jours de nourriture, mais pas beaucoup plus, et puis on n'a pas le supermarché à côté, quoi. Donc, c'est toutes ces petites choses qui font que on apprend des choses qu'à terre, on mettrait des années et des années, quoi.
Ouais. Ah ouais, t'as acquis une maturité très précoce, quoi. Donc ça c'est clair. C'est hyper intéressant. Et tu vois, je suis d'autant plus content moi qui m'intéresse un peu au nouveau mode d'éducation et pour mes deux fils, tu vois. Et ça m'avait ouvert les yeux en fait de comprendre qu'en fait il y avait plein d'exemples de gens qui avaient effectivement peut-être des parcours un peu éducatifs différents et que au final c'est des gens qui s'en sortent très très bien, qui ont aussi une conscience et une conscience de la nature comme tu le disais, une conscience des éléments qui est très développée et je pense que c'est bon pour les générations à venir et en même temps c'est quand t'apprends un peu par toi-même et que t'apprends le monde de la débrouille ou et que t'es responsabilisé très tôt, en fait ça fait des personnes qui sont des bonnes personnes, tu vois, je sais pas, il y a trop d'adjectifs pour dire, mais du coup c'était une des autres raisons pour lesquelles j'avais la banane ce matin parce que moi ça me change complètement, tu vois, j'ai eu le parcours académique très très classique avec un lycée privé dans une boîte à bac où il fallait que tout le monde ait le bac avec une mention et il y avait que les notes et l'école qui étaient intéressantes. Bon, j'ai fait sport études aussi, donc j'ai le sport à côté, mais c'est du coup complètement différent. Donc ça m'enrichit beaucoup. Tu te souviens de la première traversée de l'Atlantique, parce que j'imagine que du coup pour quand tu me dis les Canaries et que juste après tu me dis la Martinique et le Venezuela, je me dis il y a un moment donné faut traverser. Tu vois, de prime abord pour être monté quelques fois sur un bateau. Avec ses enfants, faut oser, quoi, tu vois, c'est pas rien.
Ah bah faut oser, et puis faut oser. J'ai la chance d'avoir un père qui est un peu fou, honnêtement. il est assez incroyable parce que il a une capacité à s'adapter à énormément de choses. Et moi j'ai souvenir, c'est un des souvenirs qui restera gravé à vie, et je respecte énormément, tous les choix qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui. Mais par exemple, départ des Canaries, donc on est 3 enfants plus mes parents, on part et on fait une dizaine d'heures en direction donc du coup des Caraïbes. Et là, ma mère dit, écoute, je le sens pas, je suis pas prête à traverser l'Atlantique, ça va pas le faire, quoi. Il y aura pas de souci, ok, ça roule. Donc on fait demi-tour et on rentre dans un petit port, je sais plus sur quelle île là, et il la jette sur un ponton, on a même pas le temps de s'amarrer, il la jette sur un ponton avec 1000 balles en poche histoire de prendre un billet d'avion. Et il dit on se revoit de l'autre côté, quoi. Et il est parti avec les 3 enfants. Lui, il avait jamais traversé l'Atlantique. Nous, on avait j'avais 8-9 ans, mon frère 13 et ma grande sœur 14, quoi. Et là, tu te dis, à ce moment-là, il est quand même assez engagé, parce que de partir traverser l'Atlantique avec 3 mioches, waouh. Et il l'a fait, et il s'est jamais posé la question, quoi. Et on est arrivé bien plus tard. On a dû faire une escale au Cap-Vert pour des raisons mécaniques et plusieurs autres raisons du bateau qui était très âgé. Et on est reparti, on a traversé l'Atlantique, on est au bout, quoi. Donc j'ai un super souvenir de cette première transat, ouais.
tu m'étonnes. Mais effectivement, il y a plein de gens qui pourraient regarder ça d'un œil un peu extérieur et te dire c'est un peu de la folie, quoi, ou peut-être un brin d'inconscience et tout. Mais ça se transmet, ça, tu vois, ce type de qualité de père en fils, tu vois, de ce brin d'insouciance qui fait que en fait tu te permets des défis que la majorité des gens ne se lancent pas.
Oh je pense que clairement oui, ça se transmet. Quand je vois ce que j'ai réussi à faire jusqu'à aujourd'hui, je vais pas me jeter des fleurs, mais enfin en termes de défis, j'en ai relevé pas mal jusqu'à là, même si j'ai pas gagné grand chose, mais
je te les jette les fleurs, moi. Je te les jette.
J'aime bien me jeter des petits défis comme ça, en mode bon, allez, tiens, ça te dit pas de faire le Vendée, allez, vas-y, t'es assez bête pour le faire et y arriver, donc vas-y, fonce. Et oui, je pense que il y a comment dire. Dans la vie, on a des envies, on a des défis qu'on aimerait se lancer. Certains n'osent pas, mais je pense que notre entourage, c'est ce qu'il y a de plus important quand on veut se lancer dans ce genre de défi. Et où on a des gens qui nous freinent, où on a des gens qui nous disent bah vas-y fonce, et puis au pire tu te plantes, mais au moins t'auras essayé quoi. Et mon père est plutôt dans cet état d'esprit de dire bah vas-y fonce, et puis au pire bon on te ramassera la petite cuillère, mais au moins t'auras essayé quoi. Parce que sinon tu t'en voudras toute ta vie. Et oui, je pense que ça aide énormément d'avoir cette mentalité-là, en fait, cette éducation-là de bah, vas-y fonce quoi.
Ouais. Et c'est il y a d'autres, enfin tu vois, peut-être je sais pas d'autres personnes ou d'autres sources d'inspiration, ou est-ce que ton père aujourd'hui c'est encore tu vois un moteur tu vois pour se lancer des défis, ou tu parles de l'entourage, je sais pas, t'as peut-être un mentor qui vient justement quand t'as des doutes et que tu t'as une nouvelle idée en tête, à qui tu aimes confronter ton idée pour recharger les batteries.
Oui et non. Moi j'ai une image du milieu de la voile, parce que forcément bah je fais de la course au large, donc je suis dans le milieu de la voile, et j'ai toujours cette image de Ellen MacArthur, ce petit bout de femme qui à 24 ans fait deuxième au Vendée Globe, elle a enchaîné énormément de compétitions et elle a toujours brillé. Et c'est un peu mon mentor, dans le sens où elle a jamais rien lâché, elle est allée au bout de ce qu'elle voulait. Et c'est rigolo, parce que dans le milieu de la course au large, je crois que j'ai rencontré tous les marins aujourd'hui, sauf Ellen MacArthur. Et c'est elle qui m'a donné, au fond, l'envie de me lancer dans la course au large. Et donc je me réjouis un jour de pouvoir, peut-être, j'espère, la rencontrer et juste lui dire merci, parce que c'est juste ce que j'ai envie de lui dire, pas plus, juste merci. Et après, en mentor. Oui, mon père fait beaucoup. Alors aujourd'hui, il est beaucoup moins dans le milieu de la voile. Hein. Il est en Suisse avec ma mère, et puis voilà. Il
s'est calmé.
Il s'est calmé, même si au fond, je sais qu'il a envie de repartir et que mes parents ont envie de repartir, parce que c'est une vie qui les a changés, et tu peux pas revenir à la vie réelle après ça. Mais moi aujourd'hui là, avec ma femme, on a une petite fille, on a une maison, mais on a déjà comme projet de partir voyager en bateau dans quelques années quoi. C'est un virus, alors c'est pas le Covid, mais c'est à vie quoi, donc voilà, c'est assez rigolo.
Ok. Et tu mentionnais Ellen MacArthur et elle et qui t'a donné envie de te lancer dans la course au large là. Tu te souviens un petit peu de comment ça t'est venu un peu, effectivement, de passer de, bon, on va dire, faire des, justement, vivre sur un bateau et faire de la croisière, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais à justement en faire un sport, à goûter la compétition, parce que je crois que t'es tombé dedans, enfin en tout cas quand je regarde ta fiche Wikipédia et les dates, je crois que c'est hyper tôt pour
Ça a commencé du coup première traversée de l'Atlantique, juste avant de se lancer dans le grand bain entre les Canaries et les Antilles, il y avait la première étape qui était entre Gibraltar et les Canaries. Et à ce moment-là, on croise une flotte de bateaux qui s'appelle la Mini 650, qui est une transatlantique en solitaire sur des bateaux de 6 mètres 50. Et je vois ces petits bateaux arriver aux Canaries. Et en fait, donc là, ouais, j'ai 8 ans et je me dis, bon, bah, c'est ça que je veux faire plus tard, quoi. Je vais faire de la course au large. Okay. Et depuis ce moment-là, en fait, j'ai jamais lâché l'affaire. C'est-à-dire que dès que je travaillais, j'essayais de mettre un peu de pognon de côté en me disant bah voilà, un jour je m'achèterai un bateau et puis et je m'entraînerai, et dans l'objectif de me lancer dans le milieu de la course au large. Et finalement, à quoi, 14 ou 15 ans, à ce moment-là, on habite à Grenade, donc dans le sud de la Caraïbe, on fait une escale de 2 ans où on construit un palais. Et je tombe sur un bateau qui est plus ou moins à l'abandon dans une baie. Et en fait, c'est un vieux Mini 650 qui traîne là, qui était arrivé à la dérive dans les années tout début 90. Donc, ça commence à dater. Okay. Et je trouve le propriétaire qui est un Grenadien et on discute. Et je dis, écoute, moi, je veux racheter ton bateau pour m'entraîner pour la Mini Transat. Donc, bref, finalement, j'arrive à racheter son bateau. 3 francs 6 sous, je leur tape. Et pendant 2 ans, en fait, j'ai parcouru l'Arcantillet en solitaire sur le bateau, mais j'avais pas de pilote automatique, j'avais même pas de compas, tout était à vue, en fait. Et c'était dans cet objectif, déjà, de participer à la Mini. Et ça, c'était en 2000, ça devait être quoi, en 2008, je l'ai vendu en 2010, enfin, je l'ai donné en 2010. Et après, on est parti, du coup, dans le Pacifique, et en fait, en 2012, j'ai souvenir de dire à mon père, écoute, là, moi, le voyage, c'est cool, mais on n'était plus que les deux à ce moment-là sur le bateau en Nouvelle-Calédonie. J'ai dit, écoute, voilà, j'ai envie de me lancer dans une nouvelle aventure, quoi, la course au large. Et il me dit, ok, on vend notre bateau de voyage et puis on rentre en Europe et puis essaie de te lancer, quoi. Et notre bateau, ça devait faire 16 ans qu'on l'avait à ce moment-là. Et on l'a vendu en 10 jours, quoi. Donc, on s'est retrouvé 16 ans de vie, 10 jours après sur le ponton avec nos valises et retour en Europe.
Waouh.
Et retour en Suisse, je chope une bagnole, je traverse la France et j'achète mon premier bateau vraiment de course au large, un Mini 650. Et du coup, je me suis lancé dans cette aventure, quoi. Ça s'est enchaîné au fur et à mesure des années comme ça, et une bonne étoile, de la chance. Et puis ça s'est fait assez naturellement.
Ouais, en tout cas, quand on t'entend le raconter, on a l'impression que c'est complètement fluide et limpide, tu vois. J'ai une idée, je le fais, donc je vais mettre les actions en place les unes après les autres pour que ça se produise, quoi. Donc c'est fou de fluidité et de limpidité, quoi. Mais et je me demande un peu, tu vois, c'est toi qui as eu ce rêve de gamin, comme je te disais, tu vois, moi je suis passé par la case de sport études et c'était dans le tennis. Donc tu vois, dans le tennis, il y a des rêves, tu vois, c'est vivre une finale de Coupe Davis ou c'est jouer sur le central de Roland Garros, tu vois, c'est les rêves un peu que tous les gamins dans le tennis ont. C'est quoi les rêves d'un enfant qui a envie de faire de la course au large? C'est tout de suite, on pense tout de suite effectivement au Vendée Globe. C'est quoi? C'est plutôt du coup pour toi l'America's Cup. C'est quoi le rêve un petit peu ultime? Est-ce qu'il y a un objectif? Est-ce qu'il y a quelque chose de un but à atteindre, quoi?
Le but ultime, je pense, pour tout marin, c'est... Alors moi j'ai fait chaque course, en fait, c'était déjà un rêve. Voilà, ça c'était la première des choses, c'est que le rêve ultime était de participer au Vendée Globe, de le faire, de le finir, parce que c'est la course la plus dure du monde. Voilà, ça on n'enlèvera jamais, que le Vendée Globe ça restera, même si les bateaux ont évolué, s'il y a plus de communication, si c'est la course ultime à la voile. Donc ça c'est la première des choses. Mais je pense que, alors moi je l'ai vécu, oui, mon rêve ultime c'était le Vendée Globe, mais chaque course, la Mini Transat, j'y ai rêvé toute mon enfance, la Transat Jacques Vabre, la Route du Rhum, toutes ces courses-là, ça a toujours été un rêve. Et donc je les ai réalisées au fur et à mesure des années pour atteindre le rêve ultime, quoi. J'ai pas voulu sauter toutes les étapes, j'ai voulu les réaliser les uns après les autres, et du coup ça permet d'avoir de l'expérience et de grandir et d'évoluer pour être, je dis pas le plus performant possible parce que j'ai pas eu c'est un sport mécanique, donc il faut avoir la bonne machine dans les mains pour prétendre à quelque chose. On a beau être le meilleur marin du monde, si on n'a pas le meilleur bateau, c'est compliqué, quoi. Et du coup, ça m'a permis d'avoir cette expérience là et aujourd'hui j'en suis à mon deuxième Vendée et ça reste toujours un rêve, en fait. C'est ça la magie de la voile, c'est que on rêve toujours autant, quoi, même si on refait les courses, ça reste un rêve, quoi.
Ouais, je vois ça. Mais c'est un peu, tu vois, c'est un peu une des questions que je me pose, c'est une fois que tu vis un peu le rêve et de faire cette course la plus dure, c'est comment est-ce que tu relances la machine pour aller vers un nouveau défi? Hier j'en parlais, tu vois, avec Jérôme Fernandez, ancien joueur de l'équipe de France de hand, tu vois, qui a gagné 2 Jeux Olympiques, 3 fois champion du monde. Je lui demandais un peu comment est-ce qu'il retrouvait comment est-ce qu'il relançait la machine. Lui, il me disait, nous, c'était simple. Il y avait un gars dans l'équipe qui avait une idée. Tiens, personne n'a gagné 2 fois les Jeux. Et si, pourquoi on le ferait pas? Puis, il y a quelqu'un qui dit, personne n'a gagné la Coupe d'Europe, les championnats du monde et les Jeux d'affilée. Alors, tiens, pourquoi on le ferait pas? Toi, c'est comment? C'est des nouvelles idées, c'est des nouveaux projets qui font que tu vas te relancer à chaque fois, en fait?
Bah, il y a l'envie toujours d'aller plus vite autour du monde. Ça c'est une des choses. Ouais. Mais je pense que la voile, on a, il y a quelque chose de complètement différent. C'est que t'es pas obligé de gagner pour faire des beaux projets. Ou et là, tu vois, la semaine dernière, j'ai fait la tournée des écoles en Suisse et je me suis retrouvé avec 200 élèves devant moi qui ont les yeux qui brillent et qui pétillent et qui te remercie de les avoir fait vibrer pendant 3 mois, quoi. Et ouais. Quand tu sors de l'école, bah, tu te dis, en fait, il y a même plus de questions à se poser, il faut que j'y retourne, quoi. Je peux pas les laisser comme ça, et il y a pas besoin de motivation plus que ça, ça se fait naturellement, et je pense que c'est aussi la magie du sport, mais la voile a quelque chose de différent, c'est que, on fait vivre un pays du monde, en faisant un tour du monde ou en se lançant des défis qui sont X, quoi, mais c'est l'histoire qu'on raconte autour de tout ça. C'est l'énergie qu'on y met et qu'on a envie de transmettre. Et j'ai pas besoin de grand chose pour vouloir repartir en mer parce que c'est ma passion et aujourd'hui c'est forcément devenu mon métier parce que si on veut être professionnel là-dedans, on n'a pas le choix que de vivre à plein temps, de passer, enfin du moins c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la course au large, donc voilà, c'est du plein temps. Mais moi, ce qui me donne envie d'y retourner, c'est de refaire vibrer les gens, quoi. C'est ça, c'est de partager des souvenirs finalement, parce que dans quelques années le public aura des souvenirs de tout ça et ça restera gravé comme par exemple Alinghi. Là tout à l'heure tu me posais la question, mon meilleur souvenir de sport, et je parle d'Alinghi. Bah peut-être que dans 10 ans on parlera de La Fabrique, on parlera d'Alan, parce que ils ont un souvenir de bah ouais, quand il a failli couler en 2016 dans le Grand Sud, ou bah ouais, avec ses problèmes d'hydraulique d'huile sur le Vendée en 2020, ou bah il a gagné le record de l'Atlantique alors que c'était pas prévu. Enfin, des choses comme ça où j'ai envie de transmettre ces émotions, quoi.
Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire, je vois ce que tu veux dire. Et pourtant, c'est, tu vois, c'est un peu paradoxal parce que ça reste un sport extrêmement solitaire, tu vois, ce que tu vis. Toi sur ton bateau, les émotions elles sont hyper hyper intenses. Et tu, d'ailleurs, il y a des moments où tu penses, tu vois, quand t'es en course, tu vois, à ce qui se dit sur terre, à ce que les gens pensent et tout. Est-ce qu'on a le temps, est-ce qu'on a de la bande passante dans le cerveau, tu vois, pour justement créer cette connexion émotionnelle alors que t'es au milieu de rien. En plus, toi, enfin, j'ai cru comprendre là que sur le dernier Vendée Globe, tu t'étais mangé une vraie pétole et des vrais plats, et qu'il y a des moments où ça devait être très 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 calme. Mais tu vois, on arrive à comprendre un peu ce qui se passe sur Terre ou à ce moment-là ou pas du tout.
Bah, c'est assez partagé parce qu'en fait, le plus dur en fait, c'est qu'on n'a pas envie de décevoir. Voilà, ça c'est déjà la première des choses. On sait qu'il y a du monde qui suit, il y a des sponsors qui ont investi dans le projet depuis des années. On a une équipe technique, mine de rien, parce qu'on est tout seul sur le bateau, mais une équipe qui prépare le bateau, qui s'est battue aussi pour en arriver là. Et quand on n'est pas à la place où voilà on imaginait être, bah c'est pas facile à vivre. Donc on a cette peur en fait de décevoir. Et en même temps, on soucie de tout ça, on soucie de ce que pensent les gens dans un sens. Et on essaye de pas trop penser à ce qui se passe sur Terre. On a ce ressenti tous d'être dans un monde parallèle.
Ouais.
C'est-à-dire que, ok, on est sur l'eau, on est à la place où on est, dans laquelle on se situe. Voilà, c'est un sport mécanique, il peut se passer énormément de choses. Et en fait, nous on les appelle les terriens parce que finalement, quand on est en mer, bah voilà, c'est des terriens. Les terriens, ils peuvent pas comprendre en fait ce qui se passe dans nos têtes, parce que alors ok, on est en mer, on a choisi de faire ça, mais il se passe des choses, on se pose des questions auxquelles on se poserait jamais à terre. Il y a des phases où on est vraiment pas bien, et finalement ce qui est assez rigolo, c'est que il y a aucun terrien qui arrivera à nous remonter le moral. On va se remonter le moral entre marins, et ouais. C'est entre marins qu'on va se booster finalement pour aller au bout de l'aventure. Donc on essaie de faire toujours au mieux, c'est pas facile, mais ouais, c'est milieu de la course au large, il est difficile. Nous on reçoit des messages quand on est en mer de des gens qui nous suivent. Moi, j'ai souvenir de parler à mon équipe et de dire, mais les messages de soutien là, c'est des faux. C'est vous qui les avez écrits, quoi, parce que c'est pas possible. C'est pas possible qu'il y ait autant de monde qui me soutienne. C'est juste pas possible. Donc on devient fou finalement et on n'arrive même plus à en croire qu'on a un public qui nous suit, quoi.
Ah, c'est à ce point-là. Ok, j'aurais pas pensé. mais ouais, c'est. Tu vois, j'ai l'impression, bah, il y a à la fois le côté la solitude et en même temps l'extrême charge de stress et le manque de sommeil. Enfin, tu vois, il y a toutes les conditions qui font pour que vous deveniez fou, entre guillemets. Tu vois, quand tu étudies un peu ça, et que tu prends un peu de recul, moi je me dis, mais en fait, enfin, je sais pas comment ils font pour. Moi, je serais à leur place. Enfin, je pense que à leur place, je me suiciderais ou je sais pas, parce qu'il y a tout pour que tu pètes un plomb, quoi. T'as conscience de ça, tu vois, de j'avais vu dans une des interviews, tu disais que t'étais quelqu'un de très émotif. Mais tu vois, t'as conscience justement de à quel point vous êtes sensible face à vos émotions et face à vous-même. Comment ça se gère un peu, tu vois, justement, ces gros moments où ça va très mal, où tu te sens très seul, où t'es vraiment lessivé, où t'apprends que t'as plein de problèmes techniques. Comment tu dis qu'il y a les marins qui te reboostent, mais comment est-ce que tu te reprends? Comment est-ce que tu fais pour gérer ces moments vraiment de down très très puissants, quoi?
Ouais, il y a plusieurs méthodes. Alors chacun a la sienne. Moi, j'ai trouvé des solutions qui sont assez simples. En fait, c'est juste tu retournes la question dans l'autre sens. Bon, tu te dis, ok, ça va pas aujourd'hui. J'ai une casse ou je me sens pas bien. Je suis pas bien dans ma peau. J'avance pas. Il peut y avoir 12 000 raisons pour lesquelles ça va pas. Et généralement, c'est régulier. Enfin, ça arrive souvent. Que ça aille pas, hein. C'est un peu un jour sur deux sur le Vendée Globe, hein. Il y a ceux qui montrent toujours le positif, c'est une chose, et il y a ceux qui montrent aussi ce qui se passe réellement. Et moi, sur ce Vendée Globe-là, je voulais montrer aussi que c'est pas tout beau tout rose tous les jours, quoi, parce que c'est pas l'image. Enfin, on fait pas ça pour mentir aux gens, on fait ça pour montrer la réalité. Donc quand on rit, on rit, et quand on pleure, on montre aussi qu'on pleure. Et en fait, quand on pleure, la question, c'est, on se dit, mais ça va pas, pourquoi, mais pourquoi ça va pas? Bon, ok, t'as un souci technique, ok, c'est chiant. Bon, ton bateau, il est plus lent parce que t'as cassé une pièce, ok, bon, ça, c'est bon. Tu te demandes ce que tu fais là, écoute, mon coco, tu fais là, t'es en train de réaliser un rêve de gosse, ça fait 4 ans que tu te bats pour ce projet, ça fait même plus, ça fait des années et des années depuis ta jeune enfance où tu te bats là-dessus. Et, ok, ça va pas, c'est un moment difficile à passer. Mais dis-toi que t'es en train de réaliser quelque chose d'assez malade, tu vas te relever, mec, et puis tu vas pas te laisser abattre, parce qu'en fait, ce que t'es en train de vivre maintenant, il y a plein de gens qui rêvent de le faire, et c'est ta chance. Donc maintenant, tu relèves la tête et tu fonces. Et en fait, c'est juste de se booster dans l'autre sens, c'est de se dire, ok, ça va pas, pourquoi ça va pas? Bon, pour cette raison, mais attends, mais t'es là où tu devrais être, c'est toi qui as choisi d'être là. Donc maintenant, t'assumes et tu vas au bout. Et en fait, on arrive généralement seul à remonter cette pente, quoi.
Ok, ouais. Et effectivement, relativiser et se rappeler le pourquoi tu fais les choses, c'est toujours un outil hyper puissant pour aller mieux, ouais. Et tu disais que ouais, t'avais pris le parti en fait de tout montrer. Et on voit effectivement, il y a des images très fortes de toi où on sent que ça va vraiment mal et que c'est compliqué et c'est vrai qu'il y a beaucoup de skippers qui ne montrent pas ces moments où tu craques, quoi, tout simplement, humainement. Et moi, je me demandais, tu vois, à quel point c'est facile à quel point c'est difficile plutôt de s'ouvrir, tu vois. Tu craques, et est-ce que tu penses tout de suite, ah bon, j'avais promis que j'allais montrer ces images, allez, ok, je craque, je suis pas bien, j'ai envie d'être tout seul, mais j'allume quand même la caméra, tu vois. C'est une gymnastique qui est assez, je sais pas, enfin, j'imagine qu'il y a eu d'autres moments où tu craquais et puis tu te dis, ok, je vais pas le montrer à tout le monde, mais Comment est-ce que tu te dis, c'était un petit rituel où tu te disais tous les jours, je vais allumer la caméra et je vais parler un petit peu aux gens à telle heure, et puis si je suis bien tant mieux, si je suis pas bien tant pis. Comment est-ce que tu fais un peu pour le programmer, tout ça?
L'idée, c'est de pas le programmer. quand on envoie des vidéos, alors quand on a des obligations, donc des fois on envoie des couchers de soleil parce qu'il faut envoyer des images, donc ça c'est une chose. Quand on craque, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est on se filme pas pour montrer qu'on craque, on se filme parce qu'en fait la caméra c'est un peu notre copine, quoi.
Ouais.
On a l'impression de parler à quelqu'un quand on parle à la caméra, et du coup on arrive à se confier un peu plus devant la caméra que de parler dans le vide, dans le bateau, voilà. Et en fait, ça se fait assez naturellement. C'est que des fois, on se sent pas bien, bah on va se confier à notre caméra. Ouais. Après, il y a des vidéos qui sont pas montrées. Il y a plein d'heures de vidéos, de pleurs, de rires qui sont pas montrées, parce qu'après, c'est pas parce qu'on se filme qu'on va envoyer ces images-là.
Ouais.
C'est un choix où.
Mais toi, tu les gardes ces vidéos-là? Tu les gardes quelque part pour.
Ah ouais, moi j'ai celle du premier, j'ai toutes les vidéos depuis la mini transat, donc je dois avoir, je sais pas, une centaine d'heures de films en mer qui traînent dans les disques durs. Mais c'est, si tu veux, ce qui se passe aujourd'hui dans le milieu de la voile, mais c'est donc comme dans plein de milieux, c'est que tout le monde est en mode tout va bien à bord. Je montre pas si je vais bien ou pas, voilà, c'est moral stable, ça ne bouge pas. Et ils font ça parce que en fait les concurrents c'est quand même des bons petits filous, c'est-à-dire qu'ils vont aller sur internet parce qu'on a quand même des moyens de communication à bord des bateaux aujourd'hui qui facilitent l'accès à internet, et aller voir ou écouter la voix des autres marins, savoir s'ils sont bien, savoir s'ils sont fatigués ou pas, s'ils peuvent dans cette journée-là, vu que le mec moralement il est en bas, il est au fond du trou, accéléré pour essayer de le bouffer. Donc en fait, la plupart des marins qui sont dans la tête de flotte, ils montrent aucune émotion, parce que si tu montres une émotion, c'est un signe de faiblesse, et donc les autres attaquent derrière. Alors bon, chacun son truc. Moi, je trouve dommage parce que du coup, la tête de flotte, en fait, on la suit pas parce que c'est nul. Enfin, c'est nul. C'est personne raconte une histoire, quoi. C'est tout va bien à bord. Merci, bonsoir. Allez, ciao. Ouais. Ok, bon, et sinon ça va, t'as eu une casse, je sais pas, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, raconte-nous un peu ta vie, quoi. Et non, il y a rien du tout, quoi.
Mais vous le partagez peut-être entre marins après coup, tu vois, toi qui disais que tu t'en avais rencontré une partie, enfin que tu les connais tous et que tu les as tous rencontrés, peut-être que vous avouez des petits moments de dur après la course, et justement pour pas biaiser les on va dire l'espionnage qu'il peut y avoir pendant une course.
Bah alors. Les échanges avec les coureurs, on les a beaucoup sur l'eau, on les a moins à terre. C'est assez rigolo.
Ouais.
Alors pourquoi ? Parce que les liens qu'on crée sur l'eau restent sur l'eau. C'est une histoire en fait qui restera. Nos échanges, c'est nos échanges. À terre, on n'est pas forcément proches, mais en mer, on est tous dans la même galère, ouais. J'ai envie de dire. Et c'est assez rigolo parce que on voit la différence, je trouve, au fur et à mesure des années, quand même. Certains skippers, là je prends un exemple, Jérémy Bayou qui était le favori sur Zone des Globes, qui malheureusement dès le départ a eu des soucis techniques, a dû rentrer au port et repartir dernier, remonter la flotte. Il a fait une course incroyable et il a vu ce que c'était aussi de naviguer dans l'arrière de la flotte et du coup de peut-être moins avoir cette pression qu'on peut avoir quand on est dans la tête du peloton. Et je trouve qu'il a partagé des émotions que pas grand monde finalement partageait, et j'ai trouvé ça super sympa qui s'ouvre et qui fasse vivre son Vendée Globe de la manière dont il l'a fait, et comme quoi des fois on peut faire des super courses en partageant la réalité, quoi, parce que en termes de temps de course il aurait pas eu ces soucis techniques, il aurait potentiellement gagné le Vendée Globe, quoi. Donc c'est ça aussi j'ai trouvé joli, et c'est une belle histoire sur ce Vendée Globe, et il y en a plein, hein. Mais c'est vrai que dans le groupe de tête des fois on essaye d'envoyer un petit message de soutien ou de félicitations, parce qu'il a fait une super nuit le mec, il a remonté 3 places, et il y a pas de réponse, quoi. Des fois on se dit c'est dommage, parce qu'on est quand même tous dans le même bateau, j'ai envie de dire, et dans la même galère surtout. Donc voilà, il y a des échanges qui se font, et avec certains et avec d'autres moins. Et par exemple avec Jérémy Bayou, on a échangé tout au long du Vendée Globe. Enfin, c'était juste top, quoi. Mais que ça va de soutien mental aussi aux échanges sur la stratégie météo. Et toi, tu vas passer de quel côté de la dépression? Ah ouais, mais moi je pense que peut-être là c'est mieux. Vas-y, on tente. Un soutien, une aide, ouais, c'est bon, bah, on est les deux dans la même galère, viens, on y va ensemble, quoi. C'est un peu dans cet état d'esprit, quoi. Et ça, je trouve ça chouette.
Ouais, ouais. Mais c'est, mais en tout cas, c'est cool que tu racontes ça. C'est vrai, c'est, tu vois, cette complicité, peut-être des marins qui jouent pas la tête, tu vois, et qui essayent plutôt de créer des liens et de créer des stratégies ensemble. Tu vois, j'en avais pas du tout connaissance. Donc, merci de me partager ces petites infos de l'intérieur de la course. Franchement, ça fait hyper plaisir. En plus, bon, on le sait tous, il y a un code entre les marins, tu vois, qui est très fort. On l'a vu notamment là sur cette dernière épreuve, tu vois, c'est le quand il se passe quelque chose, voilà, c'est aux marins de réagir et il s'est passé vraiment vraiment énormément de choses sur cette dernière course, quoi. Donc, c'est cool aussi, tu vois, de voir un peu tout ce qui peut se passer à ce moment-là. Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on réagit quand on entend un signal radio? Alors, je sais pas d'où il part. Est-ce que c'est le maître de course, tu vois, qui vous annonce que, je sais pas, il y a un homme à la mer et qu'il faut aller le secourir? Est-ce que toi, t'es au courant? Est-ce qu'on te prévient? Est-ce qu'on te prévient pas? Comment ça se passe et comment on réagit à ce genre de nouvelles? Parce que, tu vois, bon, il y a eu des épisodes très chanceux, mais c'est rarement le cas, parce que bon, on sait que quand on tombe du bateau, faut avoir une belle étoile, quoi, vraiment. Donc comment est-ce qu'on le vit, tu vois, de ton côté? Comment est-ce que toi tu l'as vécu?
Ah, c'est un moment très difficile, et je pense que tous les marins de cette édition raconteront la même histoire, plus ou moins. C'est que nous, on a appris ça. Bon, déjà, généralement, nos équipes nous tiennent informés par mail de la situation. Quand il y a une avarie, par exemple, sur un bateau, un gros souci technique, nous, on s'y prépare aussi. Si jamais on doit aller le rechercher, on essaie de se tenir prêt, quoi. Quand il y a quelqu'un qui monte dans le mât, par exemple, on essaie de se tenir informé, parce que si on n'a pas de nouvelles dans les 20 minutes, on va peut-être commencer à se dérouter. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose. Enfin voilà, on est hyper soudés, en fait. À ce niveau-là, c'est vraiment incroyable, cette solidarité. Et pour Kevin Escoffier, quand son bateau s'est cassé en deux, moi j'ai reçu un mail de mon équipe technique en me disant, écoute, là Kevin, son bateau s'est cassé en deux, c'est un peu chaud. On te donnera plus d'informations dans les heures qui viennent, quoi. Et on a tous les marins, on a un groupe WhatsApp, en fait, parce que oui, on a WhatsApp sur nos bateaux, ça casse un peu le mythe, mais on a WhatsApp. Et on reçoit un message d'un des marins qui dit, bon, ben, je me déroute. C'était Yannick Bestaven. Je me déroute. Kevin est à l'eau, dans son radeau de survie. Le temps est compté, quoi. En gros, c'est un peu le message, quoi. Donc là.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Un grand blanc, tu te prends une sacrée baffe, tu te dis, bon, alors attends, entre le bateau et j'ai reçu un mail il y a 2 minutes que le bateau était cassé en deux, là il est déjà à l'eau, donc ça veut dire que le bateau il a coulé. Là tu commences à te faire le film dans la tête et tu te dis, bon, là il est vraiment en danger, ça pue. Et quelques heures plus tard, Yannick dit, ok, je le vois, je vais essayer de le récupérer. Et bon, silence radio, il se passe quelques minutes, peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure. Je l'ai perdu, je le vois plus, c'est chaud, en gros, je commence à avoir peur, quoi. Et là, je crois que ça a fait l'unanimité dans tous les bateaux, où tous les marins se sont mis à pleurer, à réduire la voilure, à se poser 12 000 questions. Et en fait, c'est là que tu te rends compte finalement du danger de notre aventure, parce que finalement, c'est un sport, mais c'est avant tout une aventure. Et là, tu te dis, ah, merde, là ça commence à être chaud, quoi, parce que ça peut m'arriver demain, quoi. C'est le genre d'avarie où tu peux pas vraiment l'anticiper, et puis lui il a eu 3 minutes entre le moment où le bateau se casse en deux et le moment où il s'est retrouvé dans le radeau, quoi. Ça s'est passé très très vite. Et du coup, il y a quand même eu 4 bateaux qui sont déroutés. Jean Le Cam a réussi, mais ça s'est joué à 10 minutes près, quoi. Ouais. Entre la luminosité, entre... Alors, il a eu le bon réflexe, c'est presque d'attendre la nuit, parce qu'effectivement, de nuit, la moindre lumière, tu la vois, quoi.
Ouais.
De jour, c'est plus compliqué. Et bref, ça s'est fait d'une manière où... il a eu de la chance parce que déjà il est tombé. Bon, Jean Le Cam, c'est, je vais pas refaire son palmarès ou voilà, mais en termes de marin, c'est quand même un des meilleurs marins du monde, quoi. Y a pas photo. Et quand tu tombes sur un mec pareil qui vient te rechercher, déjà tu te dis bon, je suis un peu rassuré, quoi. J'ai pas un mec qui sait pas manœuvrer devant moi, quoi. Donc bon, déjà c'est rassurant. Et mais j'ai mangé avec Kevin il y a 2 semaines et on en discutait du coup. Alors c'est toujours délicat, on n'a pas envie de reposer toutes les questions parce que le pauvre, hein, depuis son arrivée, il en entend tous les jours, quoi. Mais il m'expliquait que là où il a eu le plus peur, c'est que c'est quand Jean est allé le récupérer, parce que dans son radeau de sauvetage, finalement, ça allait bien. Mais c'est après où quand il a vu l'IMOCA de Jean, qui est quand même un bateau de 18 mètres, quoi, qui en gros lui fonce dessus. C'est là où tu te dis ah là ça va être compliqué parce qu'il y a quand même 6 mètres de houle. C'est un peu sport. Mais nous, ça nous a énormément marqué. Et je pense que si on regarde les statistiques de performance des bateaux, les 2 semaines qui ont suivi l'avarie de Kevin, quoi, enfin du moins la perte de son bateau et son sauvetage, je pense qu'on est tous à 15%, on est tous 15% plus lents, si tu veux, que la moyenne, quoi, parce qu'on a pris un coup au moral énorme.
Ouais. Mais c'est, ça se comprend en fait, tu vois, c'est à une Tu frôles la vie de pas loin et du coup forcément tu vois quand c'est un copain et que vous partagez tous et vous avez un alors là je pose vraiment une question de bisu mais vous avez une radio commune ou un truc pour partager à voix tous ensemble ou c'est juste ce groupe WhatsApp déjà c'est déjà beaucoup c'est déjà quand même sympa puis vous pouvez partager de la voix aussi si vous le voulez ouais vous pouvez vous échanger de l'information aussi vocale rapidement comme ça peut-être de bateau à bateau oui ou
ouais. Alors de bateau à bateau tu vas avoir le système qu'on appelle VHF c'est un bon ce qu'on trouve dans les avions ce qu'on trouve un peu partout le problème c'est que bon nous on est des bateaux de course qui sont en plus en carbone donc niveau antenne etc on a énormément de pertes donc on va dire que tu peux parler à un autre concurrent à une 20aine de kilomètres quoi.
Ok.
Sauf que bon, généralement, on est un peu plus éloigné que ça, donc ça peut arriver qu'on se parle à la VHF, mais c'est vraiment quand on est à vue, donc bon, ça c'est plutôt cool déjà, mais non, on échange beaucoup sur WhatsApp, mais c'est même pas forcément des voix, quoi, c'est un peu de tout, quoi. Il y a un peu de tout, donc c'est rigolo.
Ok. Bon, bah, en tout cas, c'était une sacrée histoire et tu vois, j'avais à cœur de l'entendre, tu vois, de quelqu'un qui l'a vu un peu, enfin, qui le sent de l'intérieur tout en étant un peu à l'extérieur, tu vois, et ça fait chaud au cœur, en tout cas, la façon avec laquelle tu le racontes, je fais un petit flashback en arrière, tu vois, sur toi, parce que moi, la première fois que j'avais entendu parler de toi, c'était effectivement en 2016, parce que tu prends le départ de cette course et t'es un petit peu le je vais pas dire l'ovni tu vois mais on a souvent l'image du marin qui est le type qui a l'expérience qui a des années et des années de course et toi qui arrives tout jeune tu vois sur ton c'est un IMOCA c'est ça le
ouais, exact ouais.
Tiens 23 ans. Quoi? Pardon? Vous êtes sûr? Et tu te dis, mais ce gars est un peu fou pour se lancer aussi jeune dans quelque chose d'aussi grand. Moi, je me demandais, tu vois, si, est-ce que, comment est-ce que tu t'es senti un peu reçu, tu vois, d'être aussi jeune, d'être un peu le Benjamin, parmi justement, je vais pas dire les vieux briscards parce que franchement ça serait vraiment pas respectueux, mais tu vois parmi ces gars qu'on pour certains qui sont deux fois plus âgés que toi, quoi. Et comment c'est reçu, comment c'est vu, comment toi tu le ressens aussi. J'imagine que t'as encore presque des yeux de gamin quand tu vois quand t'arrives pour la première fois. C'est presque Disneyland, tu vois. Enfin, j'en sais rien, mais je fais peut-être des métaphores d'ailleurs qui sont pas du tout appropriées. Mais comment est-ce que tu l'as vécu en tout cas cette arrivée aussi jeune dans les têtes de coureurs, quoi.
Bah, le projet 2016, il est parti très rapidement et en fait, alors pour la petite histoire, nous on a récupéré un bateau qui était un très vieux bateau, hein, il était, ouais. Il était fin des années 90, donc c'était vraiment dans les premières générations des bateaux du Vendée Globe, quoi, donc c'était vraiment une bonne petite mémère, c'était un des plus vieux du Vendée, ouais, et donc en fait c'était une épave quand je l'ai récupéré, mais alors la chance c'est que moi, je voulais participer au Vendée Globe, mais j'avais pas les sous. Et en gros, je connaissais le propriétaire du bateau qui m'a dit, bon, tu me files 1 euro symbolique et tu fais le Vendée Globe avec le bateau. Parce que là, ça m'a un peu aidé à me lancer. Bref, ouais. J'arrive à ramener le bateau à Lorient, ramène le bateau dans le port. Et là, même les gardes-ports n'ont même pas osé toucher le bateau, quoi. C'était, non, mais c'est quoi cette épave, quoi. C'est juste pas possible. Okay. Et tout le monde se foutait un peu de ma gueule. C'était non mais Alain, il y a un moment donné, faut arrêter de rêver, etc. Et puis à ce moment-là, en fait, j'étais un peu seul à le préparer le bateau. J'avais pas d'équipe. J'avais des notions en technique, j'avais des notions de tout ça, mais j'étais pas non plus un professionnel. Et puis quand on doit faire et la préparation physique, mentale, bon ça du coup on met de côté parce qu'on n'a pas le temps. Trouver des sponsors, préparer tout le bateau, se qualifier au Vendée Globe. Enfin bref, c'était une énorme mission. Donc on a divisé en deux. Aurélia, elle a géré tout ce qui était recherche de partenaires, communication, tout ce qui est paperasse, etc. Et moi j'ai géré tout ce qui était technique du bateau. Et en fait, on avait 11 mois pour préparer le bateau au Vendée Globe, quoi. Donc tout le monde était là, mais non, mais c'est pas possible, mais tu vas pas réussir, etc. Et on boucle notre budget à l'arrache. Même on l'a bouclé réellement 2 semaines après le départ de la course, donc c'était vraiment vraiment chaud. Et on me prenait pour un peu le petit con qui va se brûler les ailes parce qu'ils en ont vu d'autres et puis des projets à l'arrache comme ça, ça fait pas belle image. Et en fait, donc je fais ma transatlantique de qualification en course, on ramène le bateau et là on commence à le refaire propre. Mais le refaire propre, c'est on le met à poil et on le refait et on le remet à l'eau. Et là les gens se disent ils ont bien bossé, c'est cool. Mais ils sont toujours pas prêts, quoi. Et je m'en rappelle, le directeur de course, il cherchait des excuses. Il cherchait un moyen pour que je ne puisse pas prendre le départ, en fait, du Vendée Globe, quoi. C'était pour lui, j'étais un danger, quoi.
Mais ça peut se comprendre. Enfin, tu vois, si on se met, désolé, là, je fais un peu l'avocat du diable, et c'est pas du tout contre toi, tu vois. Mais tu peux toujours te dire, effectivement, t'es un directeur de course, t'as pas du tout envie de salir l'image de ta course par un accident ou, tu vois. Tu vois, il peut penser à la sécurité d'abord et se dire, un tour du monde, c'est pas une transatlantique, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus long. Enfin, tu vois, il a aussi, j'imagine qu'il a trouvé toutes les excuses possibles et inimaginables et parfois des non valables. Mais la crainte, elle peut, enfin, on peut comprendre, tu vois, sa crainte. Bon, après, moi, je suis forcément de ton côté parce que je suis forcément pour les projets fous, mais
c'était sûr. Enfin, moi, à sa place, je serais même allé plus loin, quoi. J'aurais cadenassé mon bateau au ponton en mode non mais tu pars pas, quoi. Enfin, c'est juste pas possible, quoi. C'est l'image extérieure, les gens s'étaient pas renseignés en fait sur c'est pas qui j'étais mais qu'est-ce que j'avais fait avant, parce que c'est oui mais t'as pas d'expérience avec ce genre de bateau. Ok, c'est vrai, j'avais aucune expérience, mais j'avais quand même navigué depuis l'âge de 8 ans, donc si tu veux passer du temps en mer, gérer des bateaux, enfin tout ça j'avais déjà fait, j'avais participé quand même à pas mal de courses. Et c'est rigolo parce que on me disait pas bonjour, quoi. En Vendée 2016, c'était Alan. Non, mais Alan, on le regarde même pas, quoi. Et à l'arrivée du Vendée, déjà le directeur de course, Jacques Arès, aujourd'hui on est très proches, on s'entend très bien. Et il est venu me voir, il m'a dit putain, j'y croyais pas. mais tu nous as fait un truc, mon cochon. Chapeau, quoi. Et tu vois, à l'arrivée, il y avait Jean Le Cam qui m'a pris dans ses bras. Il y avait tous ces vieux briscards, oui, parce qu'on peut le dire, hein, c'est pas une insulte, hein, c'est qui viennent et qui disent, bah, mon gars, on n'y croyait pas, mais non seulement tu l'as fait, mais t'as fait une super place et t'as bouche bée tout le monde, quoi. Et là, tu te dis, ben voilà, les gars, ben des fois, faut croire un peu en la jeunesse, même si ça paraît un peu fou, mais faut croire. Et pour la petite anecdote, c'est joli, c'est que la personne qui a récupéré ce bateau-là, enfin mon ancien bateau, du coup, a participé au dernier Vendée Globe et elle a fait exactement la même chose. Pip Air, elle s'appelle, c'est une anglaise, et elle a fait la même chose et elle fait un super Vendée Globe et elle a bouche bée tout le monde. Et comme quoi, ce bateau, il est assez magique.
Ouais, mais y a pas que le bateau, attends.
Si, c'est le bateau qui fait tout.
Mais c'est vrai que c'est un sport, tu vois, que je trouve à la fois magnifique dans les émotions, dans l'exploit, dans il y a un côté dans la beauté du geste, tu vois, et qui est autour du, c'est mystique, il y a même un, c'est mythique même, tu vois. Et en même temps, il y a un côté très ingrat et très injuste où ça dépend quand même beaucoup de la technique, tu vois. Et tu peux, bien que effectivement tu sois sur un bateau qui a un côté un peu magique et avec peut-être, je sais pas, un sort qui lui promet une très belle histoire. Tu sais que même si tu mets le meilleur marin dessus au début de la course et que tu mets même je sais pas les deux meilleurs marins au-dessus de la course dessus, tu sais qu'ils ont quand même très peu de chances de gagner, quoi, tu vois, si ce n'est aucune, tu vois, presque. Là aussi, après, ce que moi je trouve cohérent dans ton message, c'est que tu dis peu importe, tu vois, la place, c'est qu'on peut quand même sans performance s'éclater et passer un super bon moment, véhiculer des émotions et partager quelque chose d'encore plus fort. Justement, il y a un peu ce côté David contre Goliath. Mais du coup, ça m'amène un peu à la question de tes prochains projets. Tu vois, est-ce que c'est justement d'aller chercher un bateau qui te permette d'aller vivre les premières places et de passer un peu du côté obscur de la force que tu décrivais un petit peu tout à l'heure, où faut être là, faut jouer la performance, et là ça c'est on met certaines choses de côté. Quelle est la suite et comment comme je te disais, je suis très intéressé par le côté un peu entrepreneurial de cette aventure aussi. Comment est-ce que ça s'organise? Enfin, déjà, quels sont tes projets et comment est-ce que tu les organises? Qu'est-ce que tu mets en place là actuellement?
Ou alors, l'objectif, l'objectif professionnel et personnel et en termes de chef d'entreprise, la réponse est aller chercher la victoire sur le prochain Vendée Globe, quoi. Ça, c'est l'objectif aujourd'hui, qui sera le même demain et après-demain et dans 4 ans. C'est mettre en tout cas toutes les chances pour y arriver. Donc changement de bateau, une équipe plus conséquente, essayer de trouver les sponsors qui nous permettent d'atteindre cet objectif-là, parce que forcément ça a un coût. Là aujourd'hui, donc on est en train de regarder ou pour construire un bateau ou pour acheter un bateau d'occasion des dernières générations. Alors ça, c'est un peu dans le côté rêve, parce que la réalité aujourd'hui, elle est un peu différente. Elle est que bon, on attend des réponses sur les partenaires. On a un budget qui nous permet de construire déjà ou d'acheter un bateau, donc ça c'est absolument incroyable. Mais là aujourd'hui, tout est un peu en stand-by parce qu'on attend des réponses de partenaires. Et là, moi j'ai 5 employés et là j'arrive à la fin où j'ai plus de quoi les payer en gros. Donc ouais. Donc là, on est dans une phase qui est assez délicate. Pour ma société, parce que on arrive à la fin d'un projet, on est le cul entre deux chaises entre un projet et l'autre, quoi. Ouais. Et donc là, c'est vachement de gestion, c'est faire des demandes, regarder avec le comptable comment faire, chômage, licenciement économique, comment on arrive à gérer ça. Et en fait, ce qui est assez rigolo dans nos sports, c'est que on n'est pas il y a pas que la performance de gérer un bateau de A à Z, il y a tout ce qui va autour. Et quand je prends par exemple mon cas, mais on est beaucoup dans ce milieu à fonctionner comme ça, c'est que moi, j'ai mon entreprise aujourd'hui qui elle a l'équipe technique et gère tout ce qui est préparation du bateau, recherche de partenaires, enfin bref, tout ce qui gère le projet de A à Z. Et ça, c'est une gestion qui est complexe, dure, longue, beaucoup d'énergie. Et t'as d'autres marins, par exemple, qui eux sont des pilotes, quoi. C'est-à-dire, ils ont leur salaire à la fin du mois, bim, ils montent sur le bateau et ils tournent la clé et ils partent faire leur course et à l'arrivée, voilà. Ouais. Et moi, il y a tout le reste à côté qui prend beaucoup de temps et j'adore ça, mais c'est beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie. Donc là, aujourd'hui, on essaie de relancer la machine. On va y arriver, j'y crois, dur comme fer. Mais je pense que j'ai appris énormément au fur et à mesure des années sur le côté entrepreneur, sur c'est presque une de mes plus belles, ouais, c'est ma plus belle fierté aujourd'hui, c'est ça, c'est d'être un entrepreneur. Je vois mes employés qui ont fondé une famille, acheté des maisons, qui j'ai l'impression d'avoir fait vivre des gens pendant un certain nombre d'années, et en fait je trouve que c'est juste magique parce que pour le coup, je suis le plus jeune de la boîte, j'ai 28 ans, je suis le gamin de la société, mais je suis aussi le président et le chef d'entreprise, et celui qui, malheureusement, enfin, heureusement, donne les ordres et donne les objectifs et tout ce qui va avec. Et je trouve ça super intéressant, mais c'est usant. Là, je commence à tirer la langue parce que depuis l'arrivée du Vendée Globe, et j'ai pas pris de vacances. Mes dernières vacances, c'était fin d'année 2019. Et là, j'ai pris depuis le retour du Vendée 3 jours. Voilà. Donc ça tire un peu.
Pas. Okay.
Et là, je repars à fond.
du coup, c'est quoi le cycle de vie, tu vois, d'un projet? C'est là, on vient de terminer le dernier Vendée Globe. Là, tu me dis que tu prépares le prochain. J'imagine qu'il y a plusieurs phases. Peut-être une première phase d'effectivement plutôt de financement et de construction du futur projet. Ensuite, t'as une phase peut-être de recherche du bateau. Je sais pas si tu l'as déjà. Si on devait décomposer un peu les étapes, ça ressemble à quoi?
Alors, ça ressemble à le nerf de la guerre, c'est les sous. Donc, trouver des partenaires, ça c'est la base.
Et vous n'avez pas de price money avec les courses?
Bon, c'est énorme nos price money. Donner un exemple, c'est un peu ça. Non, le vainqueur du Vendée Globe. Alors, faut savoir qu'après, on a les impôts dessus, on est imposé dessus. Donc, le vainqueur sur cette édition, je crois qu'il gagne 200 000, donc il doit arriver à quoi, 120 000, un truc comme ça dans sa poche à la fin.
Ouais.
Là, j'ai gagné par exemple 6 000 balles de prize money à l'arrivée du Vendée Globe, quoi. Donc, on fait pas ça pour l'argent.
Tu fais même pas un mois de salaire pour ton équipe. Donc
Un
employé chargé, tu vois, c'est...
Ah non, c'est de la rigolade, quoi. Mais bon, le geste est mignon, mais enfin, c'est juste pour dire qu'on fait vraiment pas ça pour l'argent. Donc ça nous permet pas, en fait, de relancer un projet derrière ça, non. Donc l'idée, ouais, c'est sponsor, pour avoir le financement derrière, construire ou acheter un bateau. Parallèlement à ça, monter l'équipe qui va, gérer tout ça, quoi, hein, la technique, la communication, tout ce qui va avec. Et après, on enchaîne les courses de préparation jusqu'au Vendée Globe. Donc, en gros, l'objectif, le top du top, on va dire que c'est d'arriver à faire ça sur 4 ans, c'est-à-dire de démarrer cette année et que ça se termine après le prochain Vendée Globe. Ça permet de faire, par exemple, cette année, Transat Jacques Vabre, l'année prochaine, la Route du Rhum, encore une Transat Jacques Vabre et le Vendée Globe. Donc ça, c'est des courses qui sont en plus obligatoires parce qu'il faut se qualifier au Vendée Globe, quoi. Maintenant, on a tout un enchaînement de qualifications. Donc ça c'est un peu le projet type qui est aussi il y a le côté qualification, mais il y a aussi le retour sur investissement pour les partenaires, parce que plus on fait de courses, plus derrière le retour sur investissement est important pour eux. Et le Vendée Globe, la plupart des partenaires ont tendance à miser que sur le Vendée Globe, mais c'est une erreur parce que le Vendée Globe peut durer une heure comme il peut durer 100 jours.
Ouais.
C'est mécanique, tout peut arriver. On a beau avoir préparé le bateau pendant des années, avoir tout optimisé, il suffit qu'un oubli, une bricole, une faute de manœuvre et la course s'arrête. Donc c'est très difficile de miser que sur le Vendée Globe. Donc voilà un peu le déroulé. Après, on essaie de naviguer énormément. Là, si je prends l'exemple sur le précédent projet, enfin celui qui vient de se terminer. On a commencé en 2017, ça se termine en 2021. On a fait On a fait 8 transatlantiques avec le bateau et un tour du monde, par exemple.
Ouais.
Donc on a quand même bien navigué, quoi.
Ouais, tu prends quand même beaucoup de temps pour essayer d'être sur l'eau. Ouais. Mais faut avoir le bateau, quoi.
Faut avoir le bateau. Ça, c'est sans bateau, c'est. Je suis orphelin.
et peut-être, alors, dis-moi si c'est indiscret et si c'est pas une bonne question à poser, mais tu vois, typiquement sur un projet de 4 ans, quand je vois le bateau, tu me parles de 4-5 salariés, j'imagine que le bateau, il y a de la logistique aussi pour bouger le bateau d'un port à un autre. Le mouillage, ça coûte aussi un petit prix. Enfin, je me rends pas compte à quel point l'enveloppe elle peut grossir, tu vois. Tu peux nous donner peut-être juste un ordre d'idée ou sans rentrer dans les détails, parce que j'imagine que tu vois ça reste privé et c'est aussi par respect pour les partenaires, tu vois. Peut-être on peut obligé de rentrer à fond
Si y a un partenaire qui écoute, un potentiel partenaire, autant être transparent.
Ah, mais je pense que non. Je serais curieux de savoir, tu vois, du coup, le budget prévisionnel. Bon, après, voilà, c'est, il y a des choses qui sont privées, des choses qui sont publiques, mais pour avoir un ordre d'idée.
La taille de l'équipe, elle va doubler, parce que là, nous, on était sur un projet, on va dire un peu outsider, milieu de gamme en termes de budget et de bateau. Donc, on était sur des projets à peu près 1 million d'euros par an pour faire fonctionner le bateau.
Ouais.
Là, on passe en gros à 2 millions d'euros par an de fonctionnement. Alors là-dedans, il y a quand même il y a 10 employés, donc mine de rien, ça a un sacré coût. Alors, on n'est pas des footballeurs, hein, donc les salaires sont pas énormes, mais ils sont quand même là. Et pour donner un exemple, on va avoir déjà, si on prend des changements de voile, un jeu de voile complet, on en a pour 200 000 balles, quoi.
Ouais.
L'assurance du bateau à l'année, on va en avoir pour 400 000 balles.
Ouais,
En fait, quand on calcule, quand on met tout bout à bout, à la fin, l'objectif est d'arriver à zéro, pas dans le négatif, mais à zéro, et avec ça, on est juste. Le prix du bateau, c'est dur à dire parce que c'est un investissement finalement, puisque le bateau, il va avoir une rentabilité X, il va être vendu à un prix Y derrière, donc le prix du bateau finalement, c'est pas important, mais c'est pas un bateau aujourd'hui. Ça peut commencer de 400, 500 000 euros pour des vieux bateaux jusqu'à 7 millions pour des bateaux neufs. Ouais, quoi. C'est, ouais. Le panel est quand même assez vague. Mais les budgets, on va dire les petits budgets, on est à 1 million. Les gros budgets, on est à 3 millions, quoi.
Ouais.
Par an. Voilà un peu le. Mais ce qui, honnêtement, j'avais entendu l'autre jour un bon cycliste. Son salaire est à peu près à 2 millions par an, je crois que j'avais entendu quelque chose comme ça, pour les meilleurs. Nous, on fait vivre tout un projet pour la même somme. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça paraît des grosses sommes, mais finalement, on fait le tour du monde, on fait voyager énormément de gens à travers ce projet. On a une image aussi, c'est un sport, je dirais pas écolo, parce qu'il faut quand même les construire, les bateaux, mais c'est un sport qui marche avec le vent, donc il y a toute cette phase là où on fait naviguer par exemple les intervenants dans les entreprises, on fait des sorties RP quoi avec le bateau, donc il y a toute une mise en route autour de ça qui est hyper intéressante pour les potentiels partenaires. Et c'est vrai que nous, on y croit dur comme fer. On pense que c'est pas parce que c'est le sport qu'on pratique, mais on pense que c'est le sport aujourd'hui à investir. Rapport qualité-prix, c'est imbattable, quoi.
C'est une bonne réflexion. C'est une bonne réflexion à avoir, effectivement, sur, tu vois, pour du point de vue d'un partenaire, où placer ses billes, sachant que c'est souvent de l'argent qui est plus ou moins défiscalisé, non? Ou
ça dépend si c'est du mécénat ou ça peut.
Ils peuvent en avoir une partie, mais effectivement. Et tu vois, bon, je remets une couche quand même, tu vois, sur effectivement, on parle de gros montants et Dieu sait que parfois l'argent peut être tabou en France et en Europe, mais en fait c'est quand tu effectivement quand t'emploies des gens, ça coûte très cher, et puis un salaire net c'est doublé par les charges et tout ce qu'il y a avec, donc effectivement tu prends 10 personnes, ça va super vite, quoi. Et je comprends que à la fin tu me dises que à la fin il reste plus rien, quoi, que donc et Dieu sait que aussi ça coûte cher tout ce qui est matos, parce que c'est du matériel de haute volée, vous êtes à la pointe de la technologie, donc je suis pas étonné. Et je voulais vu qu'on abordait rapidement le point de la techno, moi j'étais hyper curieux de savoir C'est bon, c'est, ça fait déjà plusieurs années, mais l'apparition des foils sur les bateaux. Toi, t'as vécu. Enfin, j'imagine que tes premiers bateaux sur lesquels t'as navigué, c'était pas des bateaux avec des foils.
Ah non.
Je me demande à quel point c'est différent les sensations. Est-ce qu'il faut réapprendre à naviguer? Est-ce qu'il faut réapprendre des choses? Tout le monde s'y met, donc c'est que ça pousse la performance encore plus loin. C'est hyper impressionnant. Les bateaux naviguent plus, ils volent maintenant. On rentre dans la troisième dimension presque. Mais ouais, du point de vue vraiment du skipper, du marin, qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce qu'on ressent la différence? Qu'il y a plus de force de frottement, que tu décolles un peu? Comment est-ce que tu vois un peu la sensation et comment est-ce que tu vois l'avenir un peu par rapport à ça?
Bah, c'est rigolo parce qu'on est tous en mode c'est une révolution, c'est génial. Alors oui, le bateau change complètement de comportement. Alors dans le bon sens pour le bateau, dans le mauvais sens pour le marin, parce que c'est beaucoup plus brusque. Les mouvements à bord du bateau, donc c'est voilà, faut tenir la cadence. On navigue avec des casques, des protections, enfin ça commence à être vraiment un sport qui devient très dangereux avec des bateaux à foil. Mais les foils existent depuis plus de 100 ans sur tout type de bateau, quoi, donc c'est assez rigolo. Ça vient dans la course au large aujourd'hui parce que ça a été ouvert à ça. Ça a été bloqué pendant un certain nombre d'années pour des raisons de coût, de mise au point, parce qu'on avait envie d'avoir des bateaux qui soient fiables et qui finissent les courses. Aujourd'hui, on se rend compte que bon bah ça tient, hein, on a le résultat là sur le dernier Vendée Globe. J'ai envie de dire c'est un sans faute, quoi, c'est propre. Ça donne alors pour moi l'avantage aujourd'hui, il y en a plusieurs, c'est que bon, on va plus vite, ça c'est bien. On fait évoluer comment dire le milieu maritime parce que nos bateaux sont un peu des bateaux aussi des bateaux de test.
Ouais, expérimentaux, vous êtes à la pointe de la technologie, ouais.
On voit par exemple les bateaux de l'America's Cup d'aujourd'hui qui volent mais qui volent réellement, beaucoup de foils ont été testés sur nos bateaux avant. Donc c'est ça qui est rigolo. Nous on arrive à les faire voler hein, honnêtement comme quasiment comme l'America's Cup, sauf qu'on est tout seul dessus, quoi. Donc c'est encore plus compliqué. Mais je trouve qu'en termes de technologie, de quelle matière utiliser pour essayer de limiter les coûts et que ça tienne structurellement, enfin il y a toute une démarche qui est hyper intéressante. À côté de ça, forcément, ça rajoute un coût en plus ou à la construction du bateau ou au changement de foil si on vient en casser un. C'est une autre organisation. C'est des capteurs en plus dans le bateau parce qu'il faut savoir quelle charge on met sur le foil en termes de portance pendant les navigations. Le côté que je trouve aussi intéressant, c'est qu'on peut avoir des bateaux un peu d'ancienne génération qu'on peut remodifier avec des foils et lui donner une nouvelle vie, donner de la performance en plus. Et ça, je trouve ça quand même hyper cool, quoi, parce que on est moins en train de faire du jetable, du jetable. On veut toujours du neuf. Ça, c'est un peu pareil dans la vie de tous les jours. On veut du neuf. Et à un moment donné, il y a aussi des choses sympas à faire avec des bateaux d'ancienne génération. Et voilà. Non, je pense que le côté foil est hyper intéressant dans le milieu de la voile. Peut-être qu'on aura des bateaux de croisière bientôt avec des foils. Pourquoi pas? Parce que même des cargos, même en fait, on limite comment dire la friction de la coque sur l'eau, donc on limite les consommations, on limite beaucoup de choses, surtout sur des bateaux à moteur, et ça c'est juste incroyable, quoi.
Mais je le vois. Et à naviguer, c'est différent. Enfin, tu ressens des choses différentes.
Naviguer c'est assez rigolo parce qu'on a l'impression d'avoir un jouet dans les mains. C'est-à-dire que le bateau quand il commence à décoller, c'est quand même des gros bateaux, hein. Ils font plus de 8 tonnes, ils font 18 mètres de long, le mât il fait 30 mètres de haut, donc c'est quand même des sacrées machines. Et quand on est à la barre du bateau et que le bateau il commence à décoller, ça devient d'une douceur. On barre le bateau, on appelle ça comme ça, barrer, quoi. C'est comme piloter mais avec deux doigts, quoi. Tout devient mou, tout devient aérien et agréable, et il n'y a plus de limite de vitesse, en fait. Alors, ce qui se passe sur les bateaux, on appelle ça une limite de la vitesse carène. Alors, la carène, c'est la forme de coque du bateau, et on a une limite, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où la forme de coque du bateau, il va pas aller plus vite. Ouais. Ou alors, ça va être sur un surf, un instant T très précis. Mais tant que, du moment qu'on enlève ce paramètre de vitesse de carène, c'est-à-dire on sustente le bateau, il touche quasiment plus l'eau, là il y a plus de limite de vitesse. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui les monocoques avec des foils vont à la vitesse des multicoques de l'époque, quoi.
Ouais.
Donc c'est assez incroyable et du coup là on a bientôt plus de limite de vitesse. Les IMOCA, ils montent à 40 nœuds en pointe. Quand à l'époque ils en faisaient 28, 32 quoi. Donc on a rajouté en gros 10 nœuds de vitesse en plus, les doigts dans le nez. Donc ça c'est assez hallucinant quoi.
OK. Bon bah écoute ouais, c'est je voyais pas du tout toute cette partie-là et j'étais ma question était un peu naïve, donc merci pour la réponse hyper précise. On apprend plein de choses. Écoute, moi je me régale, je passe un super moment, mais j'ai pas non plus envie de te garder pendant des heures et des heures, même si je suis sûr qu'on passera un bon moment. J'ai des petites questions pour la fin et c'est un petit peu des petites questions comme ça que je pose un peu Canal+. La première, c'est je veux savoir, est-ce que t'as un porte-bonheur que t'emmènes sur qui te suit sur ton bateau, un petit objet, un petit gris-gris que tu regardes dans les bons moments comme dans les mauvais.
Bon, bah, j'ai toujours un collier avec plein de choses dessus. Alors sur le premier Vendée Globe, par exemple, c'est la seule course où je l'ai pas prise, je l'avais laissé à ma femme en lui disant tu sais que c'est mon gris-gris, donc je vais revenir le chercher. C'était un peu pour lui montrer que j'allais rentrer, quoi. Okay. Et sinon, je l'ai sur toutes les courses. Je l'enlève jamais. Il n'y a pas une journée où je ne l'ai pas, sauf sur la première édition du Vendée Globe.
Okay.
Et ça, c'est un peu mon gris-gris, ouais.
Belle histoire. Et il y a quoi, du coup, sur ce collier?
Il y a présent. Oh, il y a plein de choses. Il y a un A, comme, l'âne. Il y a une rose des vents, marquée va jusqu'au bout de tes rêves. Et il y a une perle. Il y a une perle de Tahiti, mais qui est une perle sauvage, qui est pas une perle de culture. Donc voilà, c'est un peu inestimable. C'est plutôt rare d'en trouver, donc elle est autour de mon cou et c'est moi qui l'ai. Je l'ai trouvé en 2011, okay. Ouais, 2011 à Tahiti, quoi.
Ok, ça marche. Si tu pouvais, aller voir le petit Alan qui a 13-14 ans, qui fait sa première mini transat et qui commence à naviguer. Et qu'est-ce que ce petit Alan, il aurait eu besoin de savoir? Si tu pouvais lui donner un conseil, qu'est-ce que tu lui dirais?
Ouf. Pas grand-chose, parce que... Aujourd'hui, quand je vois mon petit parcours de marin, je me dis que forcément j'ai fait des erreurs, mais elles m'ont mené là où j'ai toujours rêvé être, quoi. Voilà, terminer le Vendée Globe, d'être dans ce milieu-là, et changerai rien parce que dans la vie, des fois, c'est pas tout écrit et les conseils c'est bien joli, mais il faut faire sa propre idée, son propre chemin et jusqu'à là ouais il y a eu des couacs, il y a eu pas mal de cases de bateaux, des trucs voilà, mais j'ai toujours gardé la tête haute et avec un seul objectif, c'était d'y arriver. Et donc non, je lui dirais rien, juste ouais, fais comme tu le sens, quoi.
Mais tu as l'air d'être assez instinctif et sensoriel, donc j'imagine que c'est un très bon conseil, donc ça me va comme réponse. T'en as vu des belles, t'as vu des, enfin j'imagine que t'as vu
des très belles.
T'en as vu, exactement. Mais est-ce qu'il y a encore des choses qui te font peur ou qui pourraient te faire peur?
Mais c'est pas parce qu'on fait le Vendée ou ce genre de projet qu'on a peur de rien. Au contraire, on a peur de beaucoup de choses, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on y retourne. C'est que on va chercher à affronter ces peurs, à se confronter à tout ça. J'ai un rêve ultime qui, je sais pas si un jour je le réaliserai, qui me fait peur parce que c'est sur un type de bateau dont j'ai pas vraiment d'expérience, et ce serait de tenter le record autour du monde en solitaire, donc c'est sur des trimarans.
Trimarans, ouais.
Et ça voilà, c'est quelque chose qui aujourd'hui me fait peur, mais j'ai envie de me confronter à ça, quoi. Donc ça, c'est ouais, c'est une peur, mais c'est une bonne peur, j'ai envie de dire.
Ok. Bon, ça me rappelle un peu les échanges que j'avais eu avec Thomas Coville, qui était vraiment génial. Chouette marin d'ailleurs. Je sais pas si vous vous connaissez, mais
ouais, on se connaît plutôt pas mal, ouais.
Mais en tout cas, il m'inspire beaucoup, et c'est quelqu'un de très bavard et très mais qui transmet énormément de choses. Moi, j'avais passé un super moment, donc écoute, je touche du bois là sur ma petite table et c'est tout ce que je te souhaite. Est-ce qu'il y a un livre, un film, une musique que tu recommandes aux gens qui t'entourent ou que tu rencontres ou un qui t'a marqué tout simplement?
Alors livre non, moi j'aime beaucoup le cinéma. Je suis un peu de la vieille école. Il y a des films qui m'ont marqué et qui m'ont pas forcément aidé plus que dans ma vie, mais qui m'ont énormément marqué. Je pense que mon film préféré c'est Le Grand Bleu, pour plusieurs raisons, mais déjà j'adore Jean Reno avec son charisme et sa voix qui est juste imposante et waouh. Et après il y a plein d'autres films où l'aventure c'est l'aventure, c'est des films que aujourd'hui personne ne regarde parce que c'est vieux et c'est un humour qui est passé, mais moi c'est des films qui m'ont bercé pendant ma jeunesse et aujourd'hui on en ressort avec des potes des phrases type quoi ouais. qui font rire quoi.
Ouais.
Est-ce que ça sonne à la porte, je pense.
Ouais, vas-y. T'inquiète.
Naturel.
Il y a pas de souci. Bon, tu vois, comme quoi ça montrait que c'était l'heure et qu'il faut qu'on termine. J'avais pas vu qu'il y avait ton chien derrière il me regardait.
Salut Louloute.
Mais ouais non, du coup, bah écoute, moi je suis pas d'accord avec toi. Tu vois, l'aventure c'est l'aventure, le Grand Bleu et tout. C'est des films que je prends toujours autant de plaisir à regarder. Tu vois, de temps en temps, il y en a plein quoi. Et pareil, grand fan de Jean Reno, tous. Tu vois, de Nikita aux autres. Franchement, c'est un acteur que, ou même en passant par Les Visiteurs, moi j'adore. Je suis un grand fan également. Cool. Bah écoute, l'avant dernière question, c'est de savoir est-ce qu'il y a un mantra ou est-ce qu'il y a une phrase que tu te répètes souvent parce qu'elle t'incarne, parce qu'elle te rappelle qui tu es ou parce que elle te donne de la force. Tu vois, est-ce que une phrase, un mantra que t'aimes bien te répéter?
Bah, celle qui ressort beaucoup, c'est quand on veut, on peut. Alors, elle est hyper vague. Elle est un peu même bébête. Enfin, ça veut tout dire et rien dire, quoi. Mais en fait, c'est une réalité, quoi. Il faut se donner les moyens d'y arriver. Mais quand on veut, on peut. On peut faire beaucoup de choses. Et ouais, je pense que c'est la phrase qui ressort souvent, quoi.
Ouais, mais c'est clair. Je suis assez d'accord avec elle. Et écoute, la toute dernière question que je pose, c'est un peu, c'est comme un passage de bateau ou un passage de flambeau, mais c'est plutôt un passage de micro. C'est de savoir quelle est la prochaine personne que t'aimerais bien écouter sur un format un peu comme ça, tu vois, un peu libre, un peu inspirationnel, sur lequel on peut parler de tout, de rien, et se confier un petit peu. À qui tu penses?
À qui je pense là tout de suite maintenant.
Ça peut être dans la voile ou pas hein, d'ailleurs. Mais si t'as des marins très sympas et avec qui tu partages des bons moments, moi c'est toujours une belle aventure humaine et j'aime bien de passer de copain en copain, donc c'est toujours cool.
Bah j'aimerais bien entendre Roger Federer.
C'est vrai.
Ouais,
tu le connais personnellement?
Du tout. Alors en Suisse on est un petit pays, mais en fait, au calendrier ça aurait pu arriver plusieurs fois de se rencontrer, mais nos calendriers sont jamais on n'est jamais au même endroit au même moment finalement. Et Roger Federer c'est quelqu'un que j'admire énormément. Alors déjà j'aime beaucoup le tennis et j'adore ce personnage qui a toujours le sourire. Il a un aura, alors en Suisse forcément parce que c'est notre tennisman et puis il dit que c'est quand même c'est pas un mauvais quoi, mais j'aimerais bien savoir plus en fait sur sa vie parce que on lit des choses, mais j'aimerais bien l'entendre de sa voix. Qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça? J'aimerais bien savoir vraiment plus sur lui Et ouais, donc si vous avez moyen de l'avoir, je serais content.
Mais je l'aurai un jour, tu vois, en tant qu'ancien tennisman, c'est obligé, c'est mon Vendée Globe à moi, tu vois, c'est d'avoir Roger. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, il y a tellement d'informations, tellement de choses qui ont été dites et tout, qu'au final tu sais plus, tu vois, démêler le vrai du faux, et je pense que l'entendre lui raconter son histoire et prendre le temps, ça serait un super moment. Et puis c'est un gars sympa, donc avec grand plaisir. Écoute, Alan, merci mille fois pour ce moment, d'avoir pris le temps et d'avoir livré des petits détails qu'on voit pas du tout, tu vois, et en même temps d'avoir rigolé, d'avoir fait des blagues. J'ai passé un excellent moment, franchement, à chaque fois, décidément, c'est toujours très chouette avec les skippers. Donc j'espère que toi t'as passé.
Bah carrément, c'était très sympa, franchement.
Bah cool. Et ben, je te dis à très bientôt. Je touche du bois pour toi, pour ce futur projet, et je vais suivre ça de près pour les prochaines courses.
Et ben, au top. Je te remercie.
À bientôt.
Ciao.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president. You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.